Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
Nous parlons donc du mariage, de cette relation privilégiée vécue entre un homme et une femme. Et avec Arnaud et Antoine, nous cherchons à comprendre ce que dit la Bible à ce sujet et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann.
Et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons vu que nous pouvons rencontrer des difficultés dans nos vies de couple à cause du péché qui est entré dans le monde et qui réside dans nos cœurs. Alors Antoine, aujourd'hui, nous allons parler de l'un des péchés les plus graves, me semble-t-il.
Oui, et ce péché peut détruire les mariages et briser bien des cœurs. Il s'agit de l'infidélité, autrement dit de l'adultère, que nous pouvons définir par le fait d'entamer et d'entretenir une relation sexuelle ou intime avec un homme ou une femme autre que celui ou celle avec lequel ou laquelle l'on est marié.
Et la Bible condamne formellement une telle conduite, me semble-t-il.
C'est exact. Nous trouvons cette interdiction dans la loi à travers les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Le 7e commandement dit tout simplement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ces lois ont été données à la nation d'Israël, mais d'une manière générale, elles dévoilent la pensée de Dieu, ses desseins pour l'humanité entière. Tout au long de la Bible, cette loi n'a jamais été remise en question, et Jésus va même plus loin, car il dénonce non seulement la pratique de l'adultère, mais aussi les désirs, les sentiments et les pensées qui peuvent pousser à l'acte. Écoutez cette citation de Matthieu. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. »
Et pourtant, aujourd'hui, peu de personnes prennent au sérieux la gravité de ce péché et l'adultère est couramment pratiqué dans le monde. Beaucoup ne voient pas où est le mal de le commettre et ils vont même jusqu'à encourager les autres à faire de même, pensant qu'il s'agit de quelque chose de normal ou de souhaitable. Alors que l'adultère est formellement interdit par la Bible, car il détruit les familles.
Oui, la Bible aborde le problème de l'adultère de plusieurs façons. Tout d'abord, la loi l'interdit, mais puisque beaucoup, à tort, ne respectent pas l'autorité de la loi, la Bible, en faisant appel à la sagesse et la raison de chacun, cherche à convaincre les gens du danger que l'adultère représente. Par exemple, le livre des Proverbes dépeint l'acte de l'adultère comme dépourvu de tout bon sens. Il s'agit d'un acte de pure folie, pratiquement suicidaire. Écoutons un extrait du livre des Proverbes. « Mon enfant, sois attentif à la sagesse que je t'enseigne. » Oui, une femme adultère distille des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme de l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui, de peur que, près de ta fin, tu ne gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé.
Ce texte présente donc l'adultère comme un chemin dangereux qu'il faut éviter à tout prix. Antoine, à quel danger s'expose celui qui pratique l'adultère aujourd'hui?
Les proverbes affirment que l'adultère devient une source de souffrance amère et de douleurs aiguës.
Mais pourquoi cela est-il le cas?
Lorsqu'une personne vit une relation interdite en cachette, une tension émotionnelle s'installe. Il faut mentir, dissimuler la vérité, et cela engendre des sentiments d'angoisse et de culpabilité. Et quand l'adultère finit par être découvert, des conflits alors s'installent, accompagnés parfois d'actes de violence. Les relations avec sa propre femme ou son propre mari se détériorent davantage, une perte de confiance s'établit, conduisant souvent à la séparation ou au divorce, événement lourd de conséquences et engendrant bien des souffrances. Aussi, même si l'adultère est couramment pratiqué par certains, Celui qui le commet est souvent mal considéré par ses amis et son entourage, car cette pratique reste un sujet de déshonneur. De même, le risque d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, est bien présent avec la multiplicité des partenaires sexuels. Si vous constatez autour de vous les ravages causés par cette terrible maladie, cela devrait vous faire réfléchir et vous dissuader de commettre un adultère.
Il est vrai que la Bible, notamment à travers les proverbes, évoque tous ces dangers, mais elle évoque aussi un autre danger, encore plus terrifiant.
Et quel est-il ?
Les proverbes parlent de l'adultère comme d'un acte qui conduit à la mort, et l'apôtre Paul, désignant ceux et celles qui mènent une vie immorale, affirme « Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Autrement dit, Dieu condamne l'infidélité, et ceux et celles qui pratiquent l'adultère seront exclus de ses promesses, exclus de sa présence, exclus de la vie éternelle.
Avec toutes ces mises en garde contre les dangers et les conséquences de l'adultère, il est étonnant que tant de personnes persistent à le pratiquer. Pourquoi cela est-il le cas ?
D'abord, l'attirance sexuelle est quelque chose de terrible, et tout le monde ne cherche pas à maîtriser ou à dompter ses désirs. Ensuite, nous avons déjà dit que beaucoup rencontrent des difficultés et des problèmes au sein de leur couple. Ces personnes sont déçues, leurs attentes ne sont pas comblées, elles sont insatisfaites. Dans un tel contexte, elles peuvent penser qu'elles vivront quelque chose de mieux ailleurs. Affaiblies par les tensions et les conflits vécus au sein de leur couple, ces personnes saisissent les occasions qui se présentent à elles, pensant qu'un autre partenaire leur offrira ce qu'elles ne trouvent plus chez leur propre conjoint ou conjointe. Ces nouvelles relations sont toutefois trompeuses et offrent de faux espoirs.
L'adultère peut donc résulter de la fuite d'un problème ou de la recherche d'un idéal insaisissable.
Vous avez raison. Les motifs poussant les gens à commettre un adultère sont divers. Mais nous ne devons pas trouver dans ces motifs des raisons qui excusent ou justifient l'adultère. L'infidélité conduit à notre perte et elle offense profondément notre Dieu qui nous a créés pour une toute autre relation. L'adultère ne résout pas les problèmes. Au contraire, il en crée par ailleurs.
Si l'adultère n'est pas une solution pour résoudre les problèmes de couple ou les problèmes affectifs, existe-t-il une autre solution que vous pouvez proposer ?
Au lieu de fuir les difficultés qui peuvent survenir dans une vie de couple, il faut chercher à les résoudre. En pratiquant l'amour au sein de son propre foyer. Nous devons alors, comme je l'ai dit la dernière fois, nous inspirer de l'amour de Christ et suivre son exemple. Cet amour n'est pas égoïste, bien au contraire. Il cherche avant tout à faire du bien à l'autre.
Et nous pouvons dire que l'amour de Christ est un amour fidèle et constant. Jésus n'abandonne pas les siens, même si nous pouvons souvent le décevoir. Et à l'image de cet amour divin, nous devons fidèlement aimer notre mari ou notre femme, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. L'amour fidèle ne baisse pas les bras devant les difficultés rencontrées, il cherche plutôt à trouver une solution pour le bien de tous.
Merci Arnaud et merci Antoine pour ces mises en garde et ces exhortations. Nous parlerons davantage la prochaine fois de la manière d'aborder et de régler les problèmes qui peuvent nuire à nos vies de couple. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour l'Église. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27.
Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Il a ainsi voulu faire paraître devant lui cette église, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul compare l'idéal du mariage à la relation d'amour qui existe entre Christ et l'Église. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le verset suivant. Pour faire paraître devant lui cette église rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Autrement dit, Christ désire rendre l'Église parfaite et belle, agréable à Dieu, prête pour entrer dans les lieux célestes. C'est une image inspirée d'une cérémonie de mariage. Le jour du mariage, la mariée fait tout, selon les coutumes de son pays, pour se faire belle et attirante, afin de se présenter devant son mari et de commencer une vie commune avec lui. Beaucoup de personnes faisant partie de l'entourage de la mariée peuvent l'aider dans ses préparatifs pour sa grande journée. Elle se montre soucieuse de faire ressortir au mieux la beauté de la jeune fille en question. De la même manière, Christ désire nous préparer à entrer dans l'éternité, et c'est dans ce but-là qu'il exerce son amour envers le croyant. Malheureusement, avec le passage des années, on perd la beauté de sa jeunesse. En vieillissant, des rides apparaissent, on perd de sa force et les problèmes de santé s'accumulent. On commence à s'en laidir et pour beaucoup, cela est difficile à accepter. Cependant, Christ ne se soucie guère de la beauté physique extérieure. Au contraire, il désire embellir notre caractère, notre beauté intérieure. D'une part, Christ nous a déjà rendus beaux devant Dieu, car par sa mort sur la croix, il nous a purifiés de la souillure de nos péchés et nous a couverts des beaux habits de sa justice. Ainsi, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus nos péchés, nos défauts, notre inconduite. Non, il nous voit revêtus de la beauté de Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'il nous accepte dans sa présence. D'autre part, Christ désire accomplir dans nos vies une œuvre par laquelle nous reproduirons la beauté du caractère de Jésus. Christ veut nous conduire à la maturité dans notre foi et dans notre marche avec lui. Et les belles qualités que nous voyons en Christ, il veut que nous les portions dans notre propre vie, comme des arbres qui portent leurs fruits. Quelles qualités Jésus désire-t-il produire par son amour? L'apôtre Paul en fait une liste dans sa lettre écrite aux chrétiens de Galatie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voici la véritable beauté. Et même si nous avons du mal à entretenir la beauté physique, nous savons que Christ, dans son amour, va œuvrer afin de nous embellir de l'intérieur et de produire ce fruit d'un beau caractère.
Pour en apprendre davantage sur le mariage d'un point de vue biblique et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous garde dans son amour.